Marivaux, la vie de Marianne, sixième partie. Je vous envoie, madame, la sixième partie de ma vie. Pour la fort étonnée, n'est-il pas vrai? Est-ce que vous ne m'avez pas encore achevé de lire la cinquième? Quelle paresse, allons, madame. Tâchez donc de me suivre, lisez du moins aussi vite que j'écris. Même, dites-vous, d'où peut venir en effet tant de diligence? Vous qui jusqu'ici n'en avez jamais eu, quoique vous m'ayez toujours promis d'en avoir. C'est que ma promesse gâtait tout. Cette diligence alors était comme d'obligation. Je vous la devais, et on a de la peine à payer ses dettes. Mais à présent que je ne vous la dois plus, que je vous ai dit qu'il ne fallait pas s'y compter, je me fais un plaisir de vous la donner pour rien. Cela me réjouit. Je m'imagine être généreuse au lieu que j'aurais été qu'exact, ce qui est bien différent. Donc reprenons le fil de notre discours. J'ai l'histoire d'une religieuse à vous raconter. J'avais pourtant résolu de vous parler que de moi. Cet épisode n'entrait pas dans mon plan, mais puisque vous m'en paraissez curieuse, que je n'écris que pour vous amuser et que c'est une chose que je trouve sur mon chemin, il ne serait pas juste de vous en priver. Attendez un moment, je vais bientôt rejoindre cette religieuse en question, et ce sera elle qui vous satisfera. Vous m'avouez, au reste, que vous avez laissé lire mes aventures à plusieurs de vos amis. Vous me dites qu'il y en a quelques-uns à qui les réflexions que j'y fais souvent n'ont pas déplu, et qu'il y en a d'autres qui s'en seraient bien passés. Oh, je suis à présent comme ces derniers. Je m'en passerai bien aussi, ma religieuse de même. Ce ne sera pas une babillarde comme je l'ai été. Elle ira vite et quand ce sera mon tour à parler, je ferai comme elle. Mais je songe que ce mot de babillarde que je viens de mettre là sur mon compte pourrait fâcher d'honnêtes gens qui ont aimé mes réflexions. Si elles n'ont été que du babil, ils ont donc eu tort de s'y plaire. Ce sont donc des lecteurs de mauvais goût. Non pas, messieurs, non pas, non, je ne suis point de cet avis. Au contraire, je n'oserais dire le cas que je fais de vous, ni combien je me sens flatté de votre approbation là-dessus. Quand je m'appelle une babillarde entre nous, ce n'est qu'en badinant, et que par complaisance pour ceux qui m'ont peut-être trouvé tel. Et la vérité est que je continuerai de l'être, s'il n'était pas plus aisé de ne l'être point. Vous me faites beaucoup d'honneur en approuvant que je réfléchisse, mais aussi ceux qui veulent que je m'en tienne au simple récit des faits me font grand plaisir. Mon amour-propre est pour vous, mais ma paresse se déclare pour eux, et je suis un peu revenu des vanités de ce monde. À mon âge, on préfère ce qui est commode à ce qui n'est que glorieux. Je soupçonne d'ailleurs, et je vous le dis en secret, je soupçonne que vous n'êtes pas le plus grand nombre. Ajoutez à cela la difficulté de vous servir, et vous excuserez le parti que je vais prendre. Vous en étiez au discours que Mademoiselle de Far et Valville tinrent à Favier. J'ai dit que cette précaution qu'ils prirent fut inutile. Vous avez vu que Favier s'était retiré avant que la duc Tour s'en allât. Il y avait tout au plus qu'un quart d'heure qu'elle avait disparu, quand elle revint, mais ce quart d'heure, elle l'avait déjà employé contre moi. De ma chambre, elle s'était rendue chez Madame de Far, à qui elle avait raconté tout ce qu'elle venait de voir et d'entendre. Elle n'osa nous l'avouer. Mademoiselle de Far le prit avec elle, sur un ton qui l'en empêcha et qui lui fit peur. J'observais seulement, comme je vous ai déjà dit, qu'elle rougit et à travers l'accablement où j'étais, je ne tirais pas un bon augure de cette rougeur. Elle sortit, assez déconcertée, et Mademoiselle de Far se remit à me consoler. Je lui tenais une main que je baignais de mes larmes. Elle répondait à cette action par les caresses les plus affectueuses. Et ma chère amie, c'était donc de pleurer, me disait-elle. Que craignez-vous? Cette fille ne dira mot, soyez-en persuadée. C'était de Favier dont elle parlait. Nous venons de l'intéresser par tous les motifs qui peuvent lui fermer la bouche. Je lui ai dit que son indiscrétion la perdrait, que son silence ferait sa fortune. Et après les menaces dont je l'ai intimidé, après les récompenses que je lui ai promises, concevez-vous qu'elle ne se taise pas? Y a-t-il quelque apparence qu'elle nous trahisse? Tranquillisez-vous donc. Et donnez-moi cette marque d'amitié et de confiance. Ou bien je croirai à présent que c'est à cause de moi que vous pleurez. Tant que je croirai que vous rougissez d'avoir eu pour témoin ce qui s'est passé et que vous soupçonnez d'avoir quelques sentiments qui vous humilient. Moi, mais qui ne vous en aime que davantage, qui ne m'en sens que plus lié à vous. Moi, pour qui vous n'en devenez que plus intéressante et qui n'en aurait toute ma vie que plus d'égards pour vous. Je le croirai, vous dis-je. Et voyez en ce cas combien j'aurais lieu de me plaindre de vous, combien votre douleur m'offenserait et serait désobligeante pour un cœur comme le mien. Oh, ce discours redoublait mon attendrissement et par conséquent mes larmes. Je n'avais pas la force de parler, mais je donnais 1000 baisers sur sa main que je tenais toujours et que je pressais entre les miennes en signe de reconnaissance. « Quelqu'un peut venir, » me disait de son côté Valville. « Madame de Phare elle-même va peut-être arriver. Que voulez-vous qu'elle pense de l'état où vous êtes? Quelle raison lui entendrons-nous et de quoi vous affligez-vous tant? Mais cela n'aura point de suite, c'est moi qui vous le garantis. » Ajoutait-il en se jetant à mes genoux avec plus d'amour, avec plus de passion, ce me semble, qu'il n'en avait jamais eu. Et mes regards, que je laissais tomber tour à tour sur l'amant et l'ami, leur exprimaient combien j'étais sensible à tout ce qu'ils me disaient tous deux de doux et de consolant, quand nous entendîmes marcher près de ma chambre. C'était Madame de Phare qui entra un moment après. Sa fille et Valville s'assirent à côté de moi, et j'essuyai mes pleurs avant qu'elle parût. Mais toute l'impression des mouvements dont j'avais été agité me restait sur le visage. On y voyait encore un air de douleur et de consternation que je ne pouvais pas en ôter. « Feignez d'être malade, » se hâta de me dire Mademoiselle de Phare. « Nous supposerons que vous venez de vous trouver mal. » À peine achevait-elle ce peu de mots que nous vîmes sa mère. Je ne la saluai que d'une simple inclination de tête à cause de la faiblesse que nous étions convenus que j'affecterais et qui était assez réelle. Madame de Phare me regarda et ne me salua pas non plus. « Est-ce qu'elle était disposée ?» dit-elle à Valville d'un air indifférent et peu civil. « Oui, madame, » répondit-il. Nous avons eu beaucoup de peine à faire revenir mademoiselle d'un évanouissement qui lui a pris. Elle est encore extrêmement faible, ajouta aussi mademoiselle de Phare, que je vis surprise du peu de façon que faisait sa mère en parlant de moi. Mais, reprit cette dame du même ton, et sans jamais dire mademoiselle, si elle veut, on la ramènera à Paris, je lui prêterai mon carrosse. « Madame, lui dit sèchement Valville, le vôtre n'est pas nécessaire, elle s'en retournera dans le mien qui est venu me prendre. »« Vous avez raison, cela est égal, repartit-elle. »« Quoi, ma mère, tout à l'heure ?» s'écria la fille. « Non, mais je serais d'avis qu'on attendît à tantôt. »« Non, mademoiselle, dis-je alors à mon tour. » En m'appuyant sur le bras de Valville pour me lever. « Non, non, laissez-moi partir. Je vous rends 1000 grâces de votre attention pour moi, mais effectivement, il vaut mieux que je me retire. Et je sens bien qu'il ne faut pas que je reste ici plus longtemps. Descendons, monsieur, je serais bien aisé de prendre l'air en attendant que votre carrosse soit prêt. » « Mais ma mère, » reprit une seconde fois mademoiselle de Phare, « prenez donc garde. » « Laissons-nous, mademoiselle, s'en retourner toute seule dans ce carrosse ?» Et puisqu'elle veut absolument se retirer, n'êtes-vous pas d'avis que nous la ramenions, ou du moins que je prenne une de vos femmes avec moi pour la reconduire jusqu'à son couvent, ou chez Madame de Miran, qui nous l'a confié? Sans quoi il n'y a ici que M. de Valleville qui pourrait l'accompagner. Il ne serait pas dans l'ordre qu'il partît avec elle. Non, reprit la mère en souriant. Mais dites-moi, M. de Valleville, j'attends compagnie. Ni ma fille ni moi ne pouvons quitter. Ne suffira-t-il pas d'une de mes femmes? Je vous donnerai celle qui l'a habillée. Il n'y a qu'un pas d'ici à Paris, n'est-ce pas, ma belle enfant? Ce sera assez. Valleville, indigné d'un procédé si cavalier, ne répondit mot. « Je n'ai besoin de personne, madame, lui dis-je, pleinement persuadé que cette femme de chambre qu'elle m'offrait avait parlé. Non, je n'ai besoin de personne. » Et c'était en sortant de la chambre avec Valleville que je disais cela. Mademoiselle de Phare baissait les yeux d'un air d'étonnement qui n'était pas la louange de sa mère. « Madame, dit Valleville à madame de Phare, d'un ton aussi brusque que dégagé, mademoiselle va prendre mon équipage. Vous avez affaire le vôtre, vous n'avez qu'à me le prêter pour la suivre. L'état où elle est m'inquiète, et s'il lui arrivait quelque chose, je serais à portée de lui faire donner du secours. Et d'où vient nous quitter? Dit-elle toujours en souriant. Mais qu'est-ce que cela signifie? Je n'en vois pas la nécessité, puisque je lui offre une de mes femmes avec elle. Aime-t-elle mieux rester? Vous savez qu'à 4 ou 5 heures, il doit lui venir une voiture que madame de Miron m'a dit qu'elle enverrait. Et comme elle est malade et que j'aurai compagnie, elle mangera dans sa chambre. Oui, dit-elle, l'expédient serait assez commode, mais je ne crois pas qu'il lui convienne. Votre sérieux me divertit, mon cousin, lui répartit-elle. Au surplus, s'il n'y a pas moyen de vous arrêter, mon carrosse est à votre service. Bourguignon, ajouta-t-elle tout de suite en parlant à un laquais qui se rencontra là, commettez les chevaux au carrosse. Je pense que voici du monde qui vient. Adieu, monsieur, nous nous reverrons, mais il y a bien de la méchante humeur à vous à nous quitter. Ma belle enfant, je suis votre servante. Allez, ce ne sera rien. Faites-la déjeuner avant qu'elle parte. Là-dessus, elle prit congé de nous, et puis se retournant, « Venez, ma fille, dit-elle à mademoiselle de Phare, venez, j'ai à vous parler. » « Dans un instant, ma mère, je vous suis, » répondit la fille en nous regardant tristement, Valleville et moi. « Je ne comprends rien à ces manières-ci, nous dit-elle. Elles ne ressemblent point à celles d'hier soir. Quelle en peut être la cause? Est-ce que cette misérable femme l'aurait déjà instruite? Oh, j'ai de la peine à le croire. » « N'en doutez point, reprit Valleville, qui avait fait donner ses ordres à son cocher. Mais n'importe, c'est l'intérêt que ma mère prend à mademoiselle, et tout ce qu'on peut lui avoir dit ne la dispense pas des égards et des politesses qu'elle devait conserver pour elle. D'ailleurs, à propos de quoi l'agit-elle si mal avec une jeune personne, pour qui elle a vu que ma mère et moi avons les plus grandes attentions? Cette lingère dont tu lui as rapporté les discours, n'a-t-elle pas pu se tromper et prendre mademoiselle pour une autre? Mademoiselle lui a-t-elle répondu un mot? Est-elle convenue de ce qu'elle lui disait? Il est vrai qu'elle a pleuré, mais c'est peut-être à cause qu'elle a cru qu'on voulait lui faire injure. C'était surprise ou timidité, et tout cela est possible dans une personne de son âge qui se voit apostrophée avec tant de hardiesse. Ce n'est pas à vous, ma chère cousine, à qui je dis que cela s'adresse. Vous savez avec quelle confiance je suis livré à vous là-dessus. Je veux seulement dire que madame de Phare devait du moins suspendre son jugement et ne pas s'en rapporter à une femme de chambre qui a peut-être pu mal entendre et qui a pu ajouter à ce qu'elle a entendu, et qui elle-même n'a raconté que ce qu'elle a su que d'après une autre femme, qui, comme je l'ai dit, peut avoir été trompée par quelques ressemblances. Et supposez qu'elle ne se soit point méprise. Il s'agit ici de faits qui méritent bien qu'on s'en assure ou qu'on les éclaircisse. D'autant plus qu'il peut y entrer une infinité de circonstances qui changent considérablement les choses, comme le sont les circonstances que je vous ai dites et qu'il faut bien voir que mademoiselle est à plaindre, mais qui ne donne droit à qui que ce soit de la traiter comme on vient de le faire. Et il fallait voir avec quel feu, avec quelle douceur s'énonçait Valeville et toute la tendresse qu'il mettait pour moi dans ce qu'il disait. Et si madame de Phare avait votre cœur et votre façon de penser, mademoiselle, ajouta-t-il, je lui aurais tout avoué, mais je m'en suis abstenu. C'est un détail, vous me permettez de le dire, qui n'est pas fait pour un esprit comme le sien. Quoi qu'il en soit, mademoiselle, elle vous aime, vous avez du pouvoir sur elle, allez tâcher d'obtenir qu'elle se taise. Dites-lui que ma mère le lui demande en grâce, et que si elle y manque, c'est se déclarer notre ennemi et m'outrager personnellement sans retour. Enfin, ma chère cousine, dites-lui l'intérêt que vous prenez à ce qui nous regarde, et tout le chagrin qu'elle ferait à vous-même, si elle ne nous gardait pas le secret. Ne vous inquiétez point, lui répartit mademoiselle de Phare. Elle se taira, monsieur. Je vais tout à l'heure me jeter à ses genoux pour l'y engager, et j'en viendrai à bout. Mais, du ton dont elle nous le promettait, on voyait bien qu'elle souhaitait plus de réussir qu'elle ne l'espérait, et elle avait raison. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, je soupirais, et j'étais consterné. « Il n'y a plus de remède, m'écriai-je quelquefois. Nous n'en reviendrons point. » Et en effet, qui n'aurait pas pensé que cet événement-ci romprait notre mariage et qu'il en naîtrait des obstacles insurmontables? Et si madame de Mirand les surmonte, me disais-je en moi-même, si elle a ce courage-là, aurais-je celui d'abuser de toutes ses bontés, de l'exposer à tout le blâme, à tous les reproches qu'elle en essuiera de sa famille? Pourrais-je être heureuse si mon bonheur, dans les suites, devient un sujet de honte et de repentir pour elle? Voilà ce qui me passait dans l'esprit, en supposant même que madame de Mirand ne se rebutât point, et un bond contre l'ignominie que cette aventure-ci répandrait sur moi. Si elle éclatait, oh, comme il y avait tout lieu de croire qu'elle éclaterait! Les deux carrosses, celui de madame de Phare et celui de Valeville, arrivèrent dans la cour. Mademoiselle de Phare m'embrassa, elle me tint longtemps entre ses bras, je ne pouvais m'en arracher, et je montai, la larme à l'œil, dans le carrosse de Valeville, renvoyé, pour ainsi dire, avec moquerie, d'une maison où l'on m'avait reçu la veille avec tant d'accueil. Et me voici parti. Valeville me suivait dans son équipage. Nous nous trouvions quelquefois de front, et nous nous parlions alors. Il affectait une gaieté qu'assurément il n'avait pas. Et dans un moment où son carrosse était extrêmement près du mien, « Songez-vous encore à ce qui s'est passé ?» me dit-il assez bas et en affançant la tête. « Pour moi, ajoute-t-il, il n'y a que l'attention que vous y faites qui me fâche. »« Non, non, monsieur, lui répondis-je, ceci n'est pas aussi indifférent que vous le croyez. Et moins vous y êtes sensible, et plus vous méritez que j'y pense. »« Nous ne saurions continuer la conversation, me répondit-il, mais allez-vous entrer dans votre couvent, et ne jugez-vous pas à propos de voir ma mère auparavant ?»« Bon, il n'y a pas moyen, lui dis-je. Vous savez l'état, nous avons laissé M. de Climal. Madame de Mirand est peut-être actuellement dans l'embarras. Aussi, il vaut mieux retourner chez moi. »« Bon, je crois, reprit Valeville, que je vois de loin le carrosse de ma mère. » Il ne se trompait pas. Et madame de Mirand ne l'envoyait plus tôt qu'elle ne l'avait dit que pour avertir Valeville que M. de Climal était mort. Il reçut cette nouvelle avec beaucoup de douleur. Elle m'affligea moi-même très sérieusement. Les dernières actions du défunt me l'avaient rendu cher, et je pleurais de tout mon cœur. Je descendis alors du carrosse de Valville, à qui je le laissais. Il renvoya l'équipage de Madame de Phare, et je me mis dans celui de Madame de Mirran, dont le cocher avait ordre de me ramener au couvent, où j'arrivais fort abattu et roulant mille pensées tristes dans ma tête. Je fus 3 jours sans voir personne de chez Madame de Mirran. Le 4e au matin, un laquais vint de sa part me dire qu'elle avait été incommodée et que je la verrais le lendemain. Et dans l'instant que je quittais ce domestique, il tira mystérieusement de sa poche un billet que Valville avait chargé de me donner et que j'allais lire dans ma chambre. « Je n'ai pas instruit ma mère de l'accident qui vous est arrivé chez Madame de Phare, » me disait-il. « Peut-être cette dame sera-t-elle discrète en faveur de sa fille, qu'il en aura fortement pressé, et dans l'espérance que j'en ai, j'ai cru devoir cacher à ma mère une aventure qu'il vaut mieux qu'elle ignore, s'il est possible, et qui ne servirait qu'à l'inquiéter. « Elle vous verra demain, » m'a-t-elle dit. J'ai parlé à la Dutour, je l'ai mise dans nos intérêts, rien n'a encore transpiré. Gardez-vous de votre côté, je vous prie, de rien dire à ma mère. » Voilà quelle était à peu près la substance de son billet que je lus en secouant la tête à l'endroit où il me recommandait le silence. « Vous avez beau dire, » lui répondis-je en moi-même, « il ne sera pas généreux de me taire. Il y aura cela une espèce de trahison ou de fourberie à laquelle Madame de Mirran ne doit point s'attendre de ma part. Ce sera lui manquer de reconnaissance, mais je ne saurais me résoudre à une dissimulation si ingrate. Il me semble que je dois lui déclarer tout, à quelque prix que ce soit. » En pensant ainsi, pourtant, je n'étais pas encore déterminé à ce que je ferais. Mais cette mauvaise finance dont on me conseillait d'user répugnait à mon cœur, de sorte que je restais jusqu'au lendemain fort agité et sans prendre de résolution là-dessus. À 3 heures après-midi, on m'annonça Madame de Mirran, et j'allais la trouver au parloir, dans une émotion qui venait de plusieurs motifs. Et les voici, me tairais-je? « Oh, c'est absolument le plus sûr, » me disais-je, « mais ce n'est pas le plus honnête, et je trouve cela lâche. Parlerai-je? C'est le parti le plus digne, mais d'un autre côté, le plus dangereux. Il fallait se hâter d'opter, et j'étais déjà devant Madame de Mirran, sans m'être encore arrêté à rien. Il est quelquefois difficile de décider entre la fortune et son devoir. » Ou quand je dis ma fortune, je parle de celle de mon cœur, que je risquais de perdre, et du bonheur qu'il y aurait pour moi à me voir uni à un homme qui m'était cher, car je ne songeais point du tout au bien de Valville, non plus qu'au rang qu'il me donnerait. Quand on aime bien, on ne pense qu'à son amour. Il absorbe toute autre considération, et le reste, de quelque conséquence qu'il fût, ne m'aurait pas fait hésiter un instant. Mais il s'agissait de sceller à Madame de Mirran un accident qu'il importait qu'elle sût, à cause des inconvénients qu'il suivrait. « Ma fille, » me dit-elle, « voici un contrat de 1200 livres de rente qui vous appartient et que je vous apporte. Il est en bonne forme, vous pouvez vous en fier à moi. C'est mon frère qui vous le laisse, et mon fils, qui est son héritier, n'y perd rien, puisque vous devez l'épouser et que cela lui revient, mais n'importe, prenez. C'est un bien qui est à vous, et j'aime encore mieux dans cette occasion-ci qu'il le tienne de vous que de son oncle. » Voyez, je vous prie, quel début! Hélas, ma mère, lui répondis-je, ce qui me touche le plus dans tout cela, c'est la manière dont vous me traitez, mon Dieu, que je vous ai d'obligation. Y a-t-il rien qui vaille la tendresse dont vous m'honorez? Vous savez, ma mère, que j'aime monsieur de Valleville, mais mon cœur est encore plus à vous qu'à lui. Ma reconnaissance pour vous m'est plus chère que son amour et que mon amour. Et là-dessus, je me mis à pleurer. Va, Marianne, me dit-elle, ta reconnaissance me fait grand plaisir, mais je n'en veux jamais d'autre de toi que celle qu'une fille doit avoir pour une mère bien tendre. Voilà de quelle espèce j'exige que soit la tienne. Souviens-toi que ce n'est plus une étrangère, mais que c'est ma fille que j'aime. Tu vas bientôt achever de le savoir, et je t'avoue qu'à présent, je le souhaite autant que toi. Je vieillis, je viens de perdre le seul frère qui me resta, je sens que je me détache de la vie, je ne m'y propose plus d'autre douceur que celle d'avoir Marianne auprès de moi. Je ne pourrai plus me passer de ma fille. Mes pleurs recommencèrent à ce discours. Je te retirerai d'ici dans quelques jours, ajouta-t-elle, et je t'ai déjà retenu la place dans un autre couvent. Es-tu contente de Madame de Fa? Je ne l'ai pas revue depuis que tu es revenue de chez elle. Elle vint hier pour me voir, mais j'étais indisposé et ne recevais personne. S'est-il encore dit quelque chose chez elle sur le mariage entre Valleville et toi, dont il fut question chez mon frère? Non, ma mère, on n'en parla plus, lui répondis-je, confuse et pénétré de tant de témoignages de tendresse. Et je n'ai pas la hardiesse d'espérer qu'on en parle davantage. Quoi? Mais que veux-tu dire? Reprit-elle. Et d'où tiens-tu ce discours? Ne dois-tu pas être sûr de mon cœur? Monsieur de Valleville ne vous a donc informé de rien, ma mère? Lui répartis-je. Non, me dit-elle. Mais qu'est-il donc arrivé, Marianne? Eh bien que je suis perdue, ma mère, et que Madame de Fare sait qui je suis, répondis-je. Mais qui lui a dit? S'écria-t-elle sur le champ. Comment le sait-elle? Par le plus malheureux accident du monde, repris-je, c'est que cette marchande de linge, chez qui j'ai demeuré 4 ou 5 jours, est venue par hasard à cette campagne pour y vendre quelque chose et qu'elle m'y a trouvé. Eh mon Dieu, tant pis, mais t'a-t-elle reconnu? Me dit-elle. Oh, tout d'un coup, repris-je. Eh bien, achève donc, ma fille, que s'est-il passé? Qu'elle a voulu, repartis-je, m'embrasser avec cette familiarité qu'elle a cru lui être permise, qu'elle s'est étonnée de me voir si ajustée, qu'elle ne m'a jamais appelé que Marianne, qu'on lui a dit qu'elle se trompait, qu'elle me prenait pour une autre, enfin qu'elle a soutenu le contraire et que, pour le prouver, elle a dit 1000 choses qui doivent entièrement décourager votre bonne volonté, qui doivent vous empêcher de conclure notre mariage et me priver du bonheur de vous avoir véritablement pour mère. Le tout est arrivé dans ma chambre. Mademoiselle de Fare, qui était présente, mais qui est une personne généreuse et à qui M. de Valleville a tout compté, ne m'a témoigné ni moins d'estime, ni fait moins d'amitié, au contraire. Aussi nous a-t-elle promis de garder un secret éternel et n'a-t-elle rien oublié pour me consoler. Mais je suis née si malheureuse que sa générosité ne servira à rien, ma mère. Mais cela tout ne t'afflige point, reprit Madame de Meuran. Si notre secret n'est su que de Mademoiselle de Fare, je suis tranquille, il n'y a rien de gâté. Nous pouvons en toute sûreté nous en fier à elle. Et tu as tort de dire que Madame de Fare sait qui tu es. Il est certain que sa fille ne m'en aura point parlé, et je n'aurai que cette dame à craindre. Eh bien, ma mère, c'est que Madame de Fare est instruite, lui répondis-je. Il y avait là une femme de chambre qui a entendu tout ce que la lingère a dit et qui lui a tout rapporté. Et ce qui nous l'a persuadé, c'est que cette dame qui vint ensuite, on ne me traita pas aussi honnêtement que la veille. Ses manières étaient bien changées, ma mère. Je suis obligé de vous l'avouer. Je croirais faire une perfidie si je vous cachais. Vous avez eu la bonté de dire que j'étais la fille d'une de vos amies de province. Mais il n'y a plus moyen de sauver par là. Madame de Fare sait que je ne suis qu'une pauvre orpheline, ou du moins que je ne connais point ceux qui m'ont mis au monde, et que c'est par pure charité que M. Climal m'avait placé chez Madame Dutour. Voilà sur quoi il faut que vous comptiez, et que j'ai cru qu'il était de mon devoir de vous apprendre. M. de Valleville ne vous en a pas averti, mais c'est qu'il m'aime et qu'il a craint que vous ne voulussiez plus consentir à notre mariage. Il faut lui pardonner. Il est votre fils. C'est une liberté qu'il a pu prendre avec vous, sans compter qu'il n'y a personne que cette aventure-ci regarde de si près que lui. C'est lui qui en souffrirait le plus, puisqu'il serait mon mari. Mais moi, qui en aurais tout le profit, et qui ne veux pas l'avoir, par une surprise qui vous serait préjudiciable, moi que vous avez accablé de bienfaits, qui ne dois la qualité de votre fille qu'à votre bon cœur, et qui n'ai pas les privilèges de M. de Valleville. Je m'imagine que je ne serais pas pardonnable si j'avais des ruses avec vous, et si je vous dissimulais une chose qui a de quoi vous détourner du dessein où vous êtes de nous marier ensemble. Madame de Miran, pendant que je lui parlais, me regardait avec une attention dont je ne pénétrais pas le motif, mais de l'air dont elle fixait ses yeux pour moi, il semblait qu'elle m'examinait plus qu'elle ne m'écoutait. Je continuais et j'ajoutais. Vous aviez envie de prendre des mesures qui auraient empêché qu'on me connût, et il n'y a plus de mesures à prendre. Apparemment que Madame de Fare dira tout, malgré sa fille qui l'aura conjuré de ne rien faire. Ainsi, voyez, ma mère, voilà la belle fille que vous auriez si j'épousais M. de Valleville. Il n'y a pas autre chose à espérer. Je ne me consolerai point du bonheur dont vous auriez bien raison de me priver, mais je me consolerai encore moins de vous avoir trompé. Madame de Miran resta quelques moments sans me répondre, me parut plus rêveuse que triste, et puis me dit, en faisant un léger soupir, « Tu m'affliges, ma fille, et cependant tu m'enchantes. Il faut convenir avec toi que tu as un malheur bien obstiné. N'y aurait-il pas moyen, sans que je m'en mêlasse, d'engager cette lingère à dire qu'en effet elle s'est méprise ? Dis-moi, que lui répondis-tu ? Alors, rien, ma mère, lui répartis-je. Je ne suis que pleurer pendant que Mademoiselle de Fare s'obstinait à lui dire qu'elle ne me connaissait pas. Pauvre enfant, reprit Madame de Miran. Ah, vraiment, non, je ne savais rien de cela. Mon fils n'a eu garde de me l'apprendre. Et comme tu le dis, il est bien pardonnable. Et peut-être même t'a-t-il recommandé de n'en point parler. Mais là, ma mère, reprit, je vous ai dit qu'il m'aime. C'est toujours son excuse. Et ce n'est que d'aujourd'hui qu'il m'a prié de me taire. « Comment, d'aujourd'hui ? » s'écria-t-elle. « Est-ce qu'il t'est venu voir ?»« Non, madame, répartis-je, mais il m'a écrit, et je vous conjure, de ne plus point dire que je voulais avouer. C'est le laquais que vous m'avez envoyé hier qui m'a apporté ce billet de sa part, et sur le champ, je l'ai lui remis entre les mains. Elle le lut. « Je ne saurais blâmer mon fils, » dit-elle ensuite, « mais tu es une fille étonnante, et il a raison de t'aimer. Va, » ajouta-t-elle en me rendant le billet, « si les hommes étaient raisonnables, il n'y en a pas un, quel qu'il soit, qui ne lui envie à sa conquête. Notre orgueil est bien petit auprès de ce que tu fais là. Tu n'as jamais été plus digne du consentement que j'ai donné à l'amour de Valleville. Je ne me rétracte point, mon enfant, je ne me rétracte point. À quelque prix que ce soit, je te tiendrai parole. Je veux que tu vives avec moi. Tu seras ma consolation. Tu me dégoûtes de toutes les filles qu'on pourrait m'offrir pour mon fils. Il n'y en a pas une qui puisse m'être supportable après toi. Laisse-moi faire. Si Madame de Phare, qui, à te dire la vérité, est une bien petite femme, et l'esprit le plus frivole que je connaisse, si elle n'a encore rien répandu de ce qu'elle sait, sauf ce qui est difficile à croire, vu son caractère, je lui écrirai ce soir d'une manière qu'il retiendra peut-être. Dans le fond, comme je te l'ai dit, elle n'est que frivole et point méchante. Je la verrai ensuite, je lui conterai toute ton histoire. Elle est curieuse, elle aime qu'on lui fasse des confidences. Je la mettrai dans la nôtre, et elle m'en sera si obligée qu'elle sera la première à me louer de ce que je fais pour toi, et qu'elle pensera de ta naissance pour le moins aussi avantageusement que moi, qui pense qu'elle est très bonne. Et supposons qu'elle ait déjà été très indiscrète, n'importe, ma fille, on trouve des remèdes à tout, console-toi. J'en imagine, hein, il ne s'agit dans cette occurrence si de mettre à l'abri de la censure. Il suffira que rien ne retombe sur moi. À l'égard de Malville, il est jeune, et quelque bonne opinion qu'on ait de lui, il a beaucoup d'amour. Tu es la plus belle figure du monde et la plus capable de mener loin le cœur de l'homme le plus sage. Or, si mon fils t'épouse, et qu'on soit bien sûr que je n'y ai point consenti, il aura tort, et ce ne sera pas ma faute. Au surplus, je suis bonne, on me connaît assez pour telle. Je ne manquerai pas d'être très irritée, mais enfin, je pardonnerai tout. Tu entends bien ce que je veux dire, Marianne? Ajouta-t-elle en souriant. À quoi je ne répondis qu'en me jetant comme une folle sur une main dont par hasard elle tenait alors un des barreaux de la grille. Je pleurais d'aise, je criais de joie, je tombais dans des transports de tendresse, de reconnaissance. En un mot, je ne me possédais plus, je ne savais plus ce que je disais. Ma chère mère, mon adorable mère, ah mon Dieu, pourquoi n'ai-je qu'un cœur? Est-il possible qu'il y en ait un comme le vôtre? Ah Seigneur, quelle âme! Et mille autres discours que je tins et qui n'avaient point de suite. As-tu pu croire qu'une aussi louable sincérité que la tienne tournerait à ton désavantage auprès d'une mère comme moi, Marianne? Me dit Madame de Mirand, pendant que me livrais à tous les mouvements que je viens de vous dire. Hélas, madame, est-ce qu'on peut s'imaginer rien de semblable à vous et à vos sentiments? Lui répondis-je, quand je fus un peu plus calme. Si je n'étais pas accoutumé, je ne le croirais pas. Serre donc le parchemin que je t'ai donné, me dit-elle. C'était ce contrat dont elle parlait. Sais-tu bien que, suivant la date de la donation, il t'est déjà dû un premier quartier de la rente et que je te l'apporte. Le voilà, ajouta-t-elle en tirant de sa poche un petit rouleau de louis d'or qu'elle me força de prendre à cause que je le refusais. Je voulais qu'elle me le gardât. Il serait mieux entre vos mains qu'entre les miennes, lui disais-je. Qu'en ferais-je? Ai-je besoin de quelque chose avec vous? Me laissez-vous manquer de rien? N'ai-je pas tout en abondance? J'ai encore l'argent que vous m'avez donné vous-même. Oui, cela était vrai. Celui dont j'ai hérité à la mort de la demoiselle qui m'a élevé me reste aussi. Mais on prend toujours, me dit-elle, prends. Il faut bien t'accoutumer à en avoir, et celui-ci est à toi. Alors, nous entendîmes ouvrir la porte du parloir où j'étais. Je serrai donc ce rouleau et nous vîmes entrer la messe de notre couvent. J'ai su que vous étiez ici, dit-elle à Madame de Mirande, ou plutôt à ma mère, car je ne dois plus l'appeler autrement. Ne l'était-elle pas, s'il n'était pas même quelque chose de mieux? Oui, j'ai su que vous étiez ici, madame, lui dit donc l'abbesse d'un ton de condoléance, à cause que je lui avais dit la mort de monsieur de Climal. Et je viens pour avoir l'honneur de voir un moment. Je devais cet après-midi envoyer chez vous, je l'avais dit à mademoiselle. Elles eurent ensuite un instant de conversation très sérieuse. Madame de Mirand se leva. Je serai quelque temps sans vous revoir et même sans sortir, Marianne, me dit-elle. Adieu. Et puis elle salua l'abbesse et partit. Jugez de la tranquillité où elle me laissa. Qu'avais-je désormais à craindre? Par où mon bonheur pouvait-il m'échapper? Y avait-il de revers plus terrible pour moi que celui que je venais d'essuyer et dont je sortais victorieuse? Non, sans doute. Et puisque la bonté de Madame de Mirand à mon égard résistait à d'aussi puissants motifs de dégoût, je pouvais défier le sort de me nuire. C'en était fait. Cela épuisait tout, et je n'avais plus contre moi, raisonnablement parlant, que la mort de ma mère, celle de son fils, ou la mienne. Encore celle de ma mère, qui, je crois, et l'amour me le pardonne, qui, dis-je, m'aurait, je pense, été plus sensible que celle de Valville même, n'aurait pas, suivant toute apparence, empêché pour lors notre mariage, de sorte que je nageais dans la joie et je me disais, tous mes malheurs sont donc finis, et qui plus est, si mes premières infortunes ont commencé par être excessives, il me semble que mes premières prospérités commencent de même, et je n'ai peut-être pas perdu plus de biens que j'en retrouve. La mère à qui je dois la vie n'aurait peut-être pas été plus tendre que la mère qui m'adopte. Elle ne m'aurait pas laissé un meilleur nom que celui que je vais porter. Madame de Mirand me tint parole. 10 ou 12 jours se passèrent sans que je la visse. Mais presque tous les jours, elle envoyait au couvent, et je reçus aussi 2 ou 3 billets de Valville, et ceux-ci, sa mère les savait. Oh, je vous en rapporterai point, il y en avait de trop longs. Voici seulement ce que j'ai retenu du premier. Vous m'avez décelé à ma mère, mademoiselle, et c'est que j'avais montré son dernier billet à Madame de Mirand, mais vous n'y gagnerez rien. Au contraire, au lieu d'un billet ou deux que j'aurais tout au plus hasardé de vous écrire, vous en recevrez 3 ou 4 et davantage. En un mot, tant qu'il me plaira, car ma mère le veut bien. Et il faut, s'il vous plaît, que vous le vouliez bien aussi. Je vous avais prié de ne lui dire ni l'impertinence de la Dutour, ni le sot procédé de Madame de Phare, et vous n'avez tenu aucun compte de ma prière. Vous avez un petit cœur mutin qui s'est avisé d'être plus franc et plus généreux que le mien. Quel tort cela m'a-t-il fait? Aucun. Et grâce au ciel, je vous mets au pis. Si je n'ai pas le cœur aussi noble que vous, en revanche, celui de ma mère vaut bien le vôtre. Entendez-vous, mademoiselle? Ainsi, il n'en sera plus ni moins. Et quand nous serons mariés, nous verrons un peu s'il est vrai que le vôtre soit plus noble que le mien. Et en attendant, je puis me vanter, du moins, de l'avoir plus tendre. Savez-vous ce qu'ont produit tous les aveux que vous avez faits à ma mère? Valville, m'a-t-elle dit, ma fille est incomparable. Tu avais recommandé le secret sur ce qui s'est passé chez Madame de Phare. Je ne t'en sais pas mauvais gré, mais elle m'a tout dit. Et je m'en reviens point. Mais je l'aime 1000 fois plus que je ne l'aimais, et elle vaut mieux que toi. Le reste du billet est rempli de tendresse. Mais voilà le seul dont je me suis souvenu et qui fut essentiel. Revenons. Il y avait donc 10 ou 12 jours que je n'avais vu personne chez Madame de Mirand, quand, sur les 10 heures du matin, On va me dire qu'il y avait une parente de ma mère qui me demandait et qui m'attendait au parloir. Comme on ne me dit point si elle était vieille ou jeune, je m'imaginais que c'était Mademoiselle de Fare, qui, après sa mère, était la seule parente de Madame de Miran que je connusse. Et je descendis, persuadé que ce ne pouvait être qu'elle. Point du tout. Je trouvais, au lieu d'elle, je ne trouvais qu'une grande femme, maigre et menue, dont le visage étroit et long lui donnait une mine froide et sèche, avec de grands bras extrêmement plats, au bout duquel étaient deux mains pâles et décharnées, dont les doigts ne finissaient point. À cette vision, je m'arrêtai. Je crus qu'on se trompait et que c'était une autre Marianne à qui ce grand spectre en voulait, car c'était sous le nom de Marianne qu'elle m'avait fait appeler. Madame, lui dis-je, je ne sache point avoir l'honneur d'être connu de vous, et ce n'est pas moi que vous demandez apparemment. Vous m'excuserez, me répondit-elle, mais pour en être plus sûr, je vous dirai que la Marianne que je cherche est une jeune fille orpheline, qui, dit-on, ne connaît ni ses parents ni sa famille, qui a demeuré quelques jours en apprentissage chez une marchande de lingère appelée Madame Dutour, et que Madame la marquise de Fare emmena ces jours passés à sa maison de campagne. À tout ce que je dis là, mademoiselle, cette Marianne qui est pensionnaire de Madame de Mirand, n'est-ce pas vous? Oui, madame, lui répartis-je. Quelque attention que vous ayez en me le demandant, c'est moi-même, je ne me le dirai jamais. J'ai trop de cœur et trop de sincérité pour cela. C'est fort bien répondu, reprit-elle. Vous êtes très aimable, c'est dommage que vous portiez vos vues un peu trop haut. Bon adieu, la belle fille, je voulais pas en savoir davantage. Et là-dessus, sans autre compliment, elle rouvrit la porte du parloir pour s'en aller. Étonné de cette singulière façon d'agir, je restai d'abord comme immobile, et puis la rappelant sur-le-champ, Madame, lui criai-je, Madame, à propos de quoi me venez-vous donc voir? Êtes-vous parente de Madame de Mirand, comme vous me l'avez fait dire? Oui, ma belle enfant, très parente, me repartit-elle, et une parente qui aura un peu plus de raison qu'elle. Je ne sais pas vos desseins, madame, répondis-je à mon tour, mais ce serait bien mal fait à vous si vous veniez ici pour me surprendre. Elle ne me répondit rien et acheva de descendre. Mais qu'est-ce que cela signifie? M'écriai-je toute seule, et à quoi tente une visite si extraordinaire? Est-ce encore quelque orage qui vient fondre sur moi? Il en sera tout ce qu'il pourra, mais je n'y entends rien. Et là-dessus, je retournai à ma chambre, dans la résolution d'informer Madame de Mirand de ce nouvel accident, non que je crusse qu'il y eût du mal à ne lui rien dire, car de quelles conséquences cela pouvait-il être? Je n'y en voyais aucune, mais il y aurait toujours eu quelque mystère à ne lui en point parler, et ce mystère, tout indifférent qu'il me paraissait, je me le serais reproché, il me serait resté sur le cœur. En un mot, je n'aurais pas été contente de moi. Et puis, me direz-vous, vous ne couriez aucun risque à être franche. Vous deviez même y avoir pris goût, puisque vous ne vous en étiez jamais trouvé que mieux de l'avoir été avec Madame de Mirand, et qu'elle avait toujours récompensé votre franchise. J'en conviens, et peut-être ce motif faisait-il beaucoup dans mon cœur, mais c'était du moins sans que je m'en aperçusse, je vous jure, et je croyais là-dessus ne suivre que les purs mouvements de ma reconnaissance. Quoi qu'il en soit, j'écrivis à Madame de Mirand. Mardi, à telle heure, lui disais-je, est venue me voir une dame que je ne connais point, qui s'est dit votre parente, qui s'est faite de telle manière et qui, après s'être bien assuré que j'étais la personne qu'il voulait voir, ne m'a dit que telle et telle chose. Et là-dessus, je rapportais ses propres paroles, que j'étais bien aimable, mais que c'était dommage que je portasse mes vues un peu trop haut. Et ensuite, ajoutai-je, s'est brusquement retiré sans autre explication. Au portrait que tu me fais de la dame en question, me répondit-elle par un petit billet, je devine qui ce peut être, et je te le dirai demain dans l'après-midi. Demeure en repos. Aussi demeurai-je, mais ce ne sera pas pour longtemps.